La Halte,
le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
Un podcast de Quartier Libre.
C'est quoi cette histoire là ?
Non mais. C'est des professionnels.
Ah ouais ?
Ils arrivent en camionnette, comme ça, ni vu ni connu.
Ok.
Paf, ils s'installent dans ta petite friche culturelle, là.
Ah, je vois le genre, ouais.
Ils commencent à poser des questions, nanani, nanana, vous êtes qui, vous faites quoi, là ?
Ah, tout carrément, quoi.
Et hop, tu t'es rendu compte de rien, en fait ? T'es dans l'émission.
Ah, waouh !
T'es dans l'émission, là.
Mais non !
Si ! Et là, tu crois que c'est fini ?
Bah ouais.
Mais non, ça fait que commencer, en fait.
Waouh !
Alors, je sais pas comment ça va se finir, mais je crois qu'ils vont jamais s'arrêter.
Waouh, chaud. Comment t'as dit, il s'appelait déjà ? La Halte ?
Parce que le port des créateurs est un peu arrivé comme un petit soleil dans ma vie et a illuminé un horizon plein d'espoir et de possibilités.
On va dire que la petite victoire, en tout cas une belle victoire, en tout cas un bel indicateur de victoire, c'est qu'aujourd'hui on a des Marseillais et des Niçois qui viennent au port des créateurs.
Alors moi on m'aurait dit il y a ne serait-ce que 5 ans que je m'installerais ici, j'aurais parié que j'aurais plutôt dit je mange mon chapeau si ça arrive. C'est une ville qui s'est vraiment développée ces 5 dernières années.
En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé le lieu comme une friche, puisque le quartier était en friche hein, quand on l'a imaginé. Maintenant, ça ne semble plus hein, être une friche. Hein, à contrario, on n'est pas excentré, on est à l'épicentre de la ville et de la métropole. Donc ça, c'est super intéressant d'être au cœur d'un quartier très vivant maintenant, aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques à bord d'un camion studio de radio. Pour ce nouvel épisode, le podcast a posé ses micros en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la découverte des friches artistiques. Nous sommes exactement à Toulon, au port des créateurs, et je suis très contente de vous faire découvrir ce lieu et ce projet que j'ai trouvé vraiment génial. Contrairement à tous les autres épisodes et donc tous les autres lieux, cette fois-ci, nous nous trouvons en plein cœur du centre ancien de Toulon et à quelques pas seulement du port. Ça en dit long sur l'historique de la ville et sur l'arrivée du lieu. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le centre-ville de Toulon a longtemps été en friche, un centre ancien entouré de bâtiments délaissés et délabrés qui avaient très mauvaise réputation. En 2000, la ville de Toulon décidait de lancer de grands travaux de rénovation et s'attaquer seulement en 2015 au quartier où se trouve aujourd'hui le port des créateurs. Au cœur de cette transformation, c'est un quartier où de multiples activités culturelles se sont développées et où le port des créateurs ouvrait ses portes en 2017, lieu qui deviendra très vite l'épicentre de ce quartier labellisé en 2021, quartier culturel et créatif, laissant bien derrière lui sa mauvaise réputation. Julien, directeur, nous raconte l'arrivée du port des créateurs.
Alors, je suis Julien Carbone et je dirige ce lieu donc, en tant que directeur au sein du port des créateurs. Depuis le début, hein, donc depuis 2016, le lieu a été inauguré en début 2017. On a mis à peu près 6 mois pour le mettre en service, on va dire. Alors, en fait, le port des créateurs, c'est une volonté de la mairie, en fait. Hein. C'est un projet municipal qui s'ancre, en fait, dans le projet de requalification du centre-ville, en fait, du centre ancien. La requalification du centre ancien, ça a presque 20 ans en fait, hein, c'est 20 ans de réflexion et d'ingénierie et ça a été accompagné par l'ANRU en fait, hein, qui a un programme de réhabilitation et en fait dans ce programme de réhabilitation il y avait un équipement au centre hein, du quartier. Quartier, il faut le préciser, c'est un quartier QPV, hein, donc quartier prioritaire de la ville et ce lieu avait tu l'imagines bien, sur 20 ans, on a imaginé plusieurs destinations, en fait. Et quand il s'agit de le lancer, en fait, il y avait un ancrage, on va dire, et en tout cas une vision liée à la culture et à ce que pouvait apporter le levier culturel à cette réhabilitation du centre-ville, en fait. Et donc la mairie a lancé un appel à projet pour, au départ, une maison des associations culturelles. Donc c'était décrit comme ça, même je crois que l'intitulé du call, en fait, de l'appel auquel on a répondu, c'était « Maison des arts émergents ». En fait. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a répondu avec notre association, hein, qui s'appelait le Port des Créateurs, qui était créé à peu près depuis un an et qui portait surtout des résidences d'artistes. En fait, hein. Donc on a commencé comme ça. On a essayé de faire une réponse qui était somme toute... qui allait un peu plus loin que le cahier des charges de l'appel à projet, en essayant de proposer un projet un peu innovant qui avait une vision peut-être un peu plus entrepreneuriale de ce que pouvait être la culture et l'art. Donc c'est le projet qu'on a déposé et qui a été retenu, et donc c'est comme ça qu'on a lancé ce projet-là. Donc il s'ancre vraiment dans ce projet de requalification urbaine. Alors le bâtiment, effectivement, c'est une propriété de la mairie et qui nous est mis à disposition, ainsi qu'un ensemble de lieux satellites dans le quartier. Donc c'est assez intéressant comparé à d'autres friches ou d'autres tiers-lieux. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé le lieu comme une friche, puisque le quartier était en friche quand on l'a imaginé. Maintenant, ça ne semble plus être une friche. À contrario, on n'est pas excentré, on est à l'épicentre de la ville et de la métropole. Donc ça, c'est super intéressant d'être au cœur d'un quartier très vivant maintenant, aujourd'hui. Et par contre, on l'a pensé très ouvert sur le quartier. Donc effectivement, il y a un grand bâtiment central qui peut accueillir, qui fait presque 1000 mètres carrés. Et puis, on a des petits lieux satellites que nous, on appelle des fabriques et qui sont, on va dire, dédiés à des pratiques. C'est des outils de production pour nous qui sont dédiés à des pratiques spécifiques et qui permettent d'accompagner là aussi la production artistique, la communication des différents acteurs qui viennent se poser ici et créer des moments aussi festifs et de convivialité, quoi. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est très central, on est dans la vieille ville, on est adjacent à une rue. Le programme de réhabilitation s'est associé à la réhabilitation d'une rue commerçante qui était dédiée à l'art de vivre et à l'art, où on retrouve des galeries, des ateliers d'artistes, des céramistes, des magasins de décoration, à une grande place qui était aussi associée à ce programme, qui s'appelle la rue des arts, avec une place de l'équerre qui est très dynamique, qui n'était pas le cas avant, avant c'était un trou en fait. Et donc là maintenant c'est une grande place au bout de ces quelques années qui est vraiment dynamisée, qui vit vraiment tous les soirs avec un peu moins d'une dizaine de bars et de restaurants. Donc ça a complètement revitalisé le quartier et en 2022 a réouvert les halles après plus de 20 ans de fermeture, donc des halles gourmandes qui reprennent vie, des halles des années 30, donc c'est assez beau. Donc il y a un pendant de la place de l'autre côté de là où on se trouve, mais toujours en centre-ville, et du coup ça apporte un axe de circulation, en tout cas pour le chaland, pour le public, d'est en ouest, alors que auparavant la ville de Toulon était plutôt orientée nord-sud, sud-nord, avec le port et derrière le Mont-Faron, quoi. Donc voilà. Enfin, moi, quand je me suis installé il y a un peu moins d'une quinzaine d'années à Toulon, c'était une ville qui était encore en friche, avec beaucoup de locaux disponibles, un potentiel foncier en cœur de ville. On peut le dire comme ça. Et moi, quand je discutais avec les élus, c'est ça que je leur racontais à l'époque, c'est que la friche, elle était en cœur de ville. C'est-à-dire, c'est une ville qui a presque 20 ans de retard sur d'autres villes comme Nantes ou Rennes. Et du coup, ces autres villes ont pu faire école et donc on a pu s'appuyer sur ces expériences qui ont été portées ailleurs. Et c'est ce qu'on a essayé de pousser, de porter sur la ville de Toulon. Et on est très heureux d'être en plein cœur de ville et de ne pas être dans une friche industrielle. Ça aurait pu être le cas, mais c'est Mais à Toulon, ce n'est pas le cas. On est en plein cœur de ville et on est en contact direct avec le quartier. Il faut savoir qu'il y a aussi eu un gros programme de rénovation des logements. La mixité des logements en cœur de ville est très forte. Il y a énormément de logements sociaux aussi, ce qui apporte une mixité dans la population, quelque chose de très éclectique et qui fait, je pense, la richesse de Toulon, quoi, clairement.
J'ai été très impressionnée par le projet du Port des Créateurs parce que ce n'est pas seulement d'un bâtiment dont on parle, mais de sept espaces qui font ce lieu artistique et culturel au cœur d'un quartier sublime aux couleurs du Sud. Quand je parle de sept lieux, je n'exagère pas. Ces lieux satellites, ils les appellent fabriques créatives et elles se trouvent à quelques pas les unes des autres et de part et d'autre de la place des Savonnières. Ces fabriques créatives permettent aux artistes en résidence d'y travailler et chacune de ces fabriques sont adaptées à une pratique artistique en particulier. Son et images, design éditorial, art plastique et même de l'art culinaire. Mais attendez, ne bougez plus, rien de mieux qu'une visite guidée sonore pour s'imaginer sous le soleil de Toulon à la découverte du Port des Créateurs. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je m'appelle William Acker, je suis chargé de développement au Port des Créateurs.
Alors là, on est arrivé devant le Port des Créateurs, on est sur une petite place, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on se trouve ?
Alors là, on est en plein centre ancien de Toulon, sur la place des Savonnières. Donc on est dans la partie piétonne de la ville, qui est assez calme et qui, pendant très longtemps, a eu mauvaise réputation, puisque la ville était un peu en perdition. Il y a eu un gros plan de rénovation urbaine qui a commencé dans les années 2000. Et le quartier ici a vraiment été rénové à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui. et est devenu petit à petit un quartier à thématique culturelle, avec une rue des arts, un quartier des arts en fait plus largement. Donc nous on est en plein dans ce quartier là. Il y a une place avec 8 grands marronniers et un bâtiment, un grand bâtiment vitré qui s'appelle le Port des Créateurs, qui est sur un rez-de-chaussée et un premier étage, sur environ 900 mètres carrés à peu près sur le bâtiment principal. Et tout autour de la place, en fait, on gravite un peu à l'image d'une friche ou de satellite. On a donc 4 satellites qui sont dédiés en fait à des pratiques créatives qu'on appelle nous fabriques créatives, et qui et donc sont en fait comme des petits commerces, des bas d'immeubles où on retrouve tout ce qu'il faut pour une pratique artistique ou autre. Donc on en a une qui est dédiée au son et à l'image, avec un studio d'enregistrement, un fond vert, etc. On en a une autre qui est dédiée au design éditorial, qui est donc animée par une association qui s'appelle Studio A2, qui là, en fait, l'objectif de cette fabrique, c'est un peu de pouvoir réaliser un livre de A à Z, donc de sa conception jusqu'à la reliure. Et on en a une qui va bientôt ouvrir, donc qui sera dédiée aux arts plastiques, avec un four céramique et d'autres CNC, etc. Et en face du Port des Créateurs, donc si on fait un virage à 180 degrés, on a la future fabrique art culinaire, qui en fait a été conçue à l'origine pour accueillir un restaurant, mais qui n'a jamais ouvert, qui est actuellement en travaux et que, dans laquelle on va proposer en fait une programmation artistique autour des arts culinaires, donc des arts plastiques qui manient le culinaire. Voilà. Et il y aura également toute une partie convivialité avec une, probablement une buvette et puis un endroit où on peut venir travailler un peu à l'image des cafés pour bosser. Voilà.
Super. On va voir l'intérieur ?
Ouais. Alors là, vous êtes dans le hall du Port des Créateurs. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Port des Créateurs, à l'origine, n'était pas conçu pour nous accueillir. C'était un bâtiment qui avait plutôt une vocation administrative. Et donc ce hall, il est très difficile à investir. On avait une borne d'accueil à l'origine, mais tout le monde nous prenait pour la sécu, donc on a changé et petit à petit on y a intégré des formats un peu divers et variés, notamment des œuvres d'art. Actuellement on a une table qui a été réalisée par un duo d'artistes plasticiens qui est une table assez étrange, on dirait une sorte d'araignée ou un tatouage tribal passé de mode, avec des palmes pour nager et à l'origine il y avait des fleurs aussi dessus, donc ça fait un mélange assez détonnant. Et au mur du fond on a un néon qui a été réalisé par Léo Fourdrinier, qui est notre artiste associé, qui ma foi crée une ambiance qui interroge du moins le passant et du coup qui fait que les gens rentrent et nous disent on est où ici.
Voilà.
C'est un peu l'objectif du lieu, vu qu'on a un lieu qui est pas très joli de base, et bien là on lui donne un intérêt tout de suite par son aménagement intérieur. Voilà. Donc c'est un peu aussi le lieu de passage. Toute la journée, les gens passent dans ce hall. Et de deux côtés du hall, il y a plusieurs espaces. Donc en rentrant à gauche, on a un bureau d'équipe, qui lui aussi a eu du mal à trouver son identité. Certaines personnes pensaient que c'était un Apple Store au début, puisque tout était très blanc et qu'il n'y a que des Apple. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Petit à petit, on l'a habillé d'œuvres d'art et puis évidemment des productions qu'on accompagne, donc il y a des posters, il y a des photos, etc. Et on est toujours dans cet espace d'une quarantaine de mètres carrés, tous ensemble, on travaille en équipe systématiquement. Voilà, c'est un peu le principe aussi du tiers-lieu, c'est que tout soit toujours ouvert et avec beaucoup de passages et de croisements et d'échanges. Et puis sur la droite du hall, on a un grand espace de 140 mètres carrés, qui a plusieurs fonctions, qui est polyvalent, qui à l'origine était une salle de diffusion, donc c'était pour éviter de l'appeler salle polyvalente parce que ça faisait un peu trop MJC. On l'a gardé ce nom quelque temps, et puis aujourd'hui en fait on l'appelle plateau parce qu'on se rend compte que les usages sont vraiment beaucoup plus vastes que de la diffusion. Alors là, actuellement, il y a une exposition proposée dans le cadre du TLN Festival. Mais on peut y trouver aussi bien des cours de yoga, des conférences, ça peut se transformer en atelier pour un artiste, ça peut se transformer en plateau de danse. Enfin, voilà, il y a énormément de fonctions et d'usages prévus dans cet espace, ce grand espace, voilà, du Port des Créateurs. Et par ailleurs, c'est aussi un espace qu'on met à disposition, qu'on peut louer aussi pour certaines occasions, soit des associations culturelles, soit parfois des entreprises. Voilà.
Et après, donc, il y a un étage.
Alors, il y a un étage, mais avant, il y a quand même une tisannerie. Alors là aussi, le nom est étrange, c'est la seule tisannerie de France sans tisane. Mais il y a des tables, une cuisine, une bibliothèque. Enfin, c'est un peu le lieu de vie du Port des Créateurs. On mange, on y mange, on y pleure, on y rigole. Et puis ça plaît pas mal aux résidents, voilà. C'est un peu notre cœur, notre lieu de vie. Et puis toujours dans cet étage, il y a un arrière qu'on ne voit pas souvent, à part si on y travaille évidemment, qui regroupe bien des sanitaires, ça c'est pas très intéressant, mais surtout qui regroupe des régies techniques, puisque le Port des Créateurs a un parc matériel scénique, audio, captation, etc. Qu'on utilise fréquemment sur nos programmations ou qu'on met à disposition de nos adhérents. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique et il y a quand même pas mal d'adhérents qui font usage de ce matériel.
Ok, voilà. Super. Et là-haut, on y trouve donc tous les bureaux des résidents.
Alors à l'étage, on a des bureaux partagés. On a 5 bureaux partagés à l'étage. Donc en fait, un bureau partagé, c'est comme son nom l'indique, des bureaux partagés entre plusieurs structures ou associations ou artistes. Et donc on va retrouver des personnes qui possèdent un média culturel, d'autres qui programment un festival, d'autres qui font tourner des artistes. On va retrouver également des artistes plasticiens, des artistes chorégraphes. Et on a également à l'étage une salle de conférence. Qui donc, comme son nom l'indique, accueille des conférences, mais aussi des formations. Et on a une salle qui, elle, s'appelle salle de formation, qui est équipée de matériel informatique et de logiciels créatifs, qui est à disposition en fait des adhérents et qui viennent s'en servir pour faire différentes choses, du graphisme, leur communication, ou même voir des formations avec les ordinateurs. Voilà.
Est-ce qu'on peut aller voir les lieux un peu annexes ?
Oui, alors il faut juste que je prenne les clés. Oui. Alors, on va commencer par un local que je ne vais pas ouvrir, mais on va en discuter. Hein, voilà. Et il s'agit de la station, qui est en fait un appartement qui fait 60 mètres carrés. Qu'on met à disposition des artistes soit qui sont en résidence, soit qui en ont besoin pour une nuit. Ça coûte 10€ la nuit, donc évidemment il est tout le temps plein, et ce qui fait que moi j'ai fait des études de droit et je pensais être juriste, en fait je suis aussi hôtelier, donc je lave des draps et je nettoie l'appartement fréquemment.
Et il est juste là.
Et il est juste sur la place des Savonnières, donc vraiment les artistes en résidence le trouvent... Je sais pas s'ils le trouvent confortable, mais en tout cas, il y a un confort certain à vivre à proximité de son lieu de résidence. Et quand je dis proximité, je parle de 20 mètres. Donc c'est vraiment à proximité. Alors là, on va pas y rentrer non plus. Hein. C'est le studio A2, donc la salle des machines, qui est un atelier donc, de design éditorial, une de nos premières fabriques créatives, qui accueille donc l'association Studio A2. Avec qui sont spécialisés en fait dans la risographie. Donc il y a deux machines risographie, c'est en fait une forme de sérigraphie mécanisée des années 80 qui permet en fait d'avoir des aplats de couleurs vraiment flashy et qui en tout cas est beaucoup utilisé par les artistes ici. Donc ils font énormément de collabs en local. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un profil à la fois de graphiste et de designer, et donc on peut avoir vraiment toute la chaîne du livre présente dans un seul espace, donc de la création graphique jusqu'à l'impression, à la reliure, et ça évidemment c'est extrêmement confortable, et puis accessoirement ce sont aussi les personnes qui font notre communication visuelle, donc pour nous c'est un grand bonheur de les avoir, et ils accueillent aujourd'hui par exemple des ateliers avec des scolaires, avec différents établissements. Donc voilà, c'est un lieu qui est une annexe du port des créateurs, qu'on conçoit comme un lieu de production. Les fabriques créatives du port des créateurs sont nos lieux de production et qui marchent très bien.
Et le tout dans de très petites mignonnes rues, des mignonnes rues.
Alors oui, c'est des mignonnes rues, comme tu dis, sauf que c'est des mignonnes rues alors en rénovation, hein, oui, puisque la moitié des bâtiments sont à l'abandon. Avant, c'était pas des mignonnes rues, c'était des coupes-gorges, puisque ces rues-là, en fait, étaient dans l'ancien Toulon, étaient des bars à marins, voilà, avec des travailleurs du sexe et des dealers de drogue et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est redevenu un petit village provençal en plein cœur d'une grande métropole, avec des bâtiments colorés, aux couleurs pastel du sud qui symbolent le pastis, et des locaux, des locaux créatifs, notamment ceux du port des créateurs.
C'est vrai qu'à notre droite, c'est pas en état.
Non, c'est pas en état. Celui-là, c'était le bar des Marsouins avant. Donc il y avait il y avait un dauphin avec l'emblème du bar, c'était un dauphin avec un bachi, c'est le chapeau des marins, des matelots, avec le pompon rouge. Bon, ça donnait une ambiance. On comprend ce qui s'y passait, quoi. Juste à côté, on a la petite place de l'Équerre et la place de l'Équerre qui aujourd'hui sont un peu les cœurs battants des soirées toulonnaises. Qui avant aussi n'existaient pas en l'état, en tout cas qui n'étaient pas aussi jolis, qui ont été complètement rénovés et aujourd'hui on y trouve pas mal de bars. Alors ça a des avantages évidemment quand on propose des formats de résidence artistique, puisque les artistes sur le papier sont très très heureux d'avoir beaucoup de bars en bas de leur appartement, et au bout de deux jours on n'en peuvent plus. Non, je rigole. Mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de monde le soir, c'est très animé, il y a souvent de la musique. Puis évidemment tout ce qu'on trouve dans un bar.
Et là donc on reprend la place où se trouve.
Sur la place, donc vous voyez, hein, vraiment très peu de temps de marche, juste le temps de raconter une bêtise. Et on arrive au Stardust, qui est actuellement occupé par un artiste qui le loue, qui en tout cas est à disposition là-bas. On peut rentrer ?
Ouais, vas-y, je te...
Bonjour.
Bonjour.
Donc toi tu bosses ici ?
Ouais, je suis en résidence ici pour la semaine. Je fais des photos au studio.
Et bon, on va voir ça.
Voilà, donc évidemment, il a mis un fond blanc, donc on a l'impression que c'est deux fois plus petit qu'en réalité. Mais il y a de l'espace aussi derrière. Donc ça, c'est un studio un peu multi-usage sur le son et l'image. On a à la fois une partie donc son pour une cabine d'enregistrement, on peut faire venir des instruments, et aussi on a un piano qu'on accorde chaque année. Ou au besoin. Qui est juste, hein. Oui, il a été accordé récemment, je pense. Et puis, il y a un fond vert où on peut faire des choses très rigolotes avec des incrustations. J'en dirai pas plus, mais on a eu quelques souvenirs. Et évidemment, on a aussi une régie technique ici, donc avec tout le matériel de captation, le matériel sonore, matériel visuel, enregistrement, etc. Et tout le matériel travail du son, évidemment. Donc voilà, c'est un studio qui est très apprécié, souvent réservé, et les usages sont très variés. Donc ça aussi, ça nous fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'on touche un peu de tout. On l'a recréé, repensé à pendant le Covid, parce qu'on a eu une grosse demande sur les live streams à ce moment-là. Donc tout le monde voulait faire du direct en stream. Et donc on a racheté un petit peu tout le matériel de captation pour faire du live stream aussi. Donc voilà, c'est un bel outil.
Alors on n'a pas visité un local du port.
C'est un local d'une galerie d'art qui s'appelle la galerie L'Axolot, qui existe depuis 2012 ou 2013. Et en fait, qui l'année prochaine deviendra un des lieux d'atelier des artistes en résidence longue au port. Ce sera un atelier partagé, donc il fait 115 mètres carrés, qui donne sur deux rues, sur la rue rue Chevalier-Paul et la rue Nicolas-Logier.
Ah oui, c'est grand.
On est au calme en plus dans ce lieu. Il s'y passait de très très belles choses dans ce lieu. Il y a eu beaucoup d'amour, amour beaucoup d'amour dans tous les sens du terme, sauf sexuel évidemment, quoique. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés ici, beaucoup d'expos, beaucoup de très très beaux projets, de belles personnes qui s'y sont rencontrées. Et donc c'est un lieu qui a une belle âme. Et sur ces 115 mètres carrés, on a un toit vitré qui est en fait un puits de lumière qui donne un beau cachet au lieu. Et ce lieu-là, voilà, ça va devenir, donc, qui était un lieu d'exposition jusqu'à aujourd'hui, va petit à petit devenir un lieu d'atelier. Donc on voit déjà pas mal d'objets un peu partout. Donc Léo Fourdrinier a évidemment investi cette partie-là, puisque Léo, probablement la personne la plus bordélique que je connais. Non, je rigole. C'est un artiste qui fait de la sculpture, donc comme tous les sculpteurs, ça prend de la place. Et donc il va partager normalement cet atelier avec une autre artiste dont on dévoilera le nom peut-être un jour, je vous le dis en secret, ça sera peut-être Makiko Furichi, qui est une artiste plasticienne qui a réalisé la fresque Place des Savonnières. C'est une grande fresque de 34 mètres de long. Et il partagera également cet atelier probablement avec les artistes de passage en résidence, les artistes plasticiens qui ont besoin d'espace pour produire. Et donc c'est aussi un lieu de rencontres et qui communique bien avec un autre lieu, d'autres lieux artistiques, puisque juste en face il y a le Metaxu, qui est aussi un artiste run space et un lieu de travail, de production pour les artistes. Donc c'est vraiment en plein en résonance avec son quartier aussi. Voilà.
Très cool.
Ouais, c'est la galerie L'Axolot, cabinet de curiosité à la base, ça s'appelait. Ça s'appelle toujours d'ailleurs.
Et là, on a fait à peu près le tour, en fait.
Bah, on a presque fait le tour. Alors, on n'a pas vu les deux autres fabriques, mais parce qu'elles sont actuellement en travaux. Donc, il y en a une qui est Place des Savonnières, juste en face du port, la fabrique Art Culinaire. La future fabrique Art Plastique, aujourd'hui, la visite ne vaut pas trop le détour, puisque ça ressemble plus à un garage qu'autre chose. Mais ça vaudra le détour une fois que ça sera rénové. Et là, c'est Place du Globe. Donc, c'est entre le port des créateurs et la maison de la photographie. C'est très proche, c'est juste à côté du Metaxu aussi. Donc, voilà, on est sur vraiment une sorte de friche en plein cœur de ville.
C'est une chance.
Bah, c'est une chance, c'est même extrêmement rare d'avoir autant de locaux, et avec une telle disposition et dans un centre-ville en plus, pour une asso.
C'est complètement fou.
C'est, voilà, ça a pu se faire parce que la ville était dans une disposition très particulière et a connu une histoire liée à la rénovation urbaine de la ville assez soudaine. Il y avait beaucoup de besoins aussi de fédérer les artistes entre eux et de faire venir de nouvelles personnes, de nouveaux artistes, etc. Et ce qui est assez significatif, c'est que sur les 8 derniers résidents qu'on a eu au port des créateurs, il y en a 4 qui se sont installés à Toulon après la résidence. Donc ça donne quand même aussi... Ça permet de comprendre aussi une des caractéristiques de ce territoire qui en fait est un territoire qui est encore à saisir en fait pour les artistes et pour les entrepreneurs de manière plus large, où on a encore un foncier qui est relativement bas sur le centre-ville. On a de moins en moins évidemment puisque de plus en plus de monde vient, mais voilà, il y avait encore de très très belles opportunités, il y a toujours encore de belles opportunités à saisir ici. Et donc ça explique qu'on ait autant d'aisance matérielle, et c'est une chance. C'est aussi une tannée des fois parce qu'il faut gérer tout ça. Hein. Je disais à 4, voilà, on n'est que 4 ici, donc on a pas mal de gens qui nous aident aussi des fois sur des projets en bénévole. Et puis ça a toujours été... On a toujours proposé des formats très souvent en partenariat avec d'autres structures, ce qui nous permet aussi d'activer les lieux avec des structures qui prennent le relais sur la gestion du lieu. Par exemple, là sur TLN Festival, TLN dépêche un médiateur sur place, donc nous on n'a pas à accueillir le public, c'est lui qui le fait. Voilà. Donc ça a toujours été comme ça, ou alors on a du partenariat en communication, des gens qui viennent faire la musique. Voilà. C'est un peu le principe de celui-là, de toujours faire des projets, mais jamais seul.
Merci pour la visite.
De rien.
Autant de lieux pour répondre au dispositif grandissant des résidences d'artistes que nous propose le Port des Créateurs pour développer la professionnalisation des jeunes artistes. Au cœur de ces programmes de résidence, on retrouve des artistes associés, des artistes en territoire, des artistes invités et deux autres programmes de résidence intitulés Booster pour une résidence de 2 mois et One Piece qui concerne 2 artistes plasticiens pour une durée d'un mois.
Alors, effectivement, il y a en gros trois profils de résidence. On a commencé, pour le faire dans l'ordre chronologique, par une résidence de 2 mois qui s'appelle Booster pour nous, on l'a conçue comme une résidence tremplin, hein, en gros, de professionnalisation pluridisciplinaire qui change chaque année de discipline. Donc, on passe des arts plastiques à la chorégraphie ou à la création sonore. Donc c'est 2 mois de résidence avec une bourse de production et une bourse de création qu'on essaye de performer dans dernière année. Hein. Là, actuellement, les rémunérations artistes, la bourse de création, elle a augmenté par exemple en 2023. Enfin, elle va augmenter en 2023. Donc ça c'est intéressant pour se caler sur des ordres de rémunération plus confortables pour les artistes. Donc ça c'est le premier programme historique qu'on avait mis en place qui s'appelle Booster. Ensuite, on a mis en place des résidences plus longues qu'on appelle les artistes associés, les artistes en territoire. Donc, on a commencé avec un artiste associé, c'était Régine Chopineau à l'époque. Donc, c'était des programmes de 3 ans. Donc là, ils sont résidents sur le lieu, ils ont leur bureau, la compagnie de Régine est basée ici. Ensuite, on a mis en place un statut d'artiste en territoire. Donc là, au bout de 3 ans, donc là, c'est Régine qui est passée en artiste en territoire pour pouvoir prolonger sa collaboration ici. Et donc, on a donné l'artiste, le statut d'artiste associé au lieu à Léo Fourdinier, qui est un jeune plasticien. Donc là, le statut est en cours. En 2023, on crée le statut d'artiste invité. Donc là, c'est court sur 1 an. L'artiste est invité à venir travailler tout au long de l'année ici, à échanger, à partager. Et en 2022, on a testé un format très court de production, essentiellement pour les plasticiens, qui s'appelait One Piece, où là, c'était 1 mois de production sur le lieu pour 2 artistes, donc 2 fois 1 mois. Pareil, avec une bourse de production et une bourse de création. Voilà, c'est 3 formats qu'on a, en tout cas pour le moment, les 3 profils de format de résidence qu'on a mis en place sur le lieu. Ça évolue, on expérimente des choses. Hein. One Piece n'est pas renouvelé pour 2023 pour le moment. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'asseoir les résidents associés, les résidents à territoire sur un nouvel équipement. Donc, voilà. Alors, sur le format Booster, oui, c'est toujours un call international qui est lancé, qui est assez bien relayé. En général, on a entre 250 et 300 candidatures pour un lauréat. Donc, c'est voilà, à chaque fois, on est très heureux, hein, parce que c'est un programme qui existe depuis maintenant 6 ans, je crois. Et il a pris de l'ampleur, il a pris de la reconnaissance à l'échelle internationale. On reçoit des candidatures de partout dans le monde. On est très relayé par le réseau En Résidence, dont on fait partie. Je pense que c'est ce qui nous a permis de faire reconnaître ce format de résidence-là, enfin en tout cas cette résidence Booster. Ensuite, on a la résidence One Piece, là aussi c'est pareil, c'est sur des calls internationaux qui sont lancés. Sur les formats des résidences longues, là c'est des rencontres avec des artistes. Par exemple, pour la première avec Régine Chopineau, bah, c'était une rencontre avec une chorégraphe qui a une expérience folle. Hein. Ça a été une des plus grande chorégraphe française qui est encore en activité, là on a pu le voir ces dernières actualités, il y a un revival dans son activité avec la production de Top, voilà, qui tourne. Top, c'est une histoire assez folle, hein. Enfin, nous on l'a suivi j'ai envie de dire presque de l'intérieur, où on retrouve dans le panel des danseurs un jeune garçon qui, nous on l'a eu en service civique ici, et Régine l'a rencontré ici, et c'est pas un danseur, c'est un jeune voilà, qui a un parcours assez fou et qui danse aujourd'hui sur les plateaux de Régine dans cette production qui tourne partout en France. Donc ça, c'est assez fou de voir ça. Léo Fourdinier, qui est artiste associé aujourd'hui, il a fait une première résidence ici, donc on s'est rencontrés. Il n'était pas du territoire. Il a fait le choix, après sa résidence Booster, de rester ici sur Toulon. Donc ça aussi, c'est j'ai pas envie de dire un des challenges du lieu quand on fait des résidences, mais on est content de voir quand l'artiste eh bien, se plaît ici à Toulon, se plaît dans l'écosystème et choisit d'y poser ses bagages. Ça a été le cas de Léo et donc on s'est dit tout naturellement que ça pourrait être assez intéressant de lui proposer ce statut. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Effectivement, sur les résidences longues, c'est plutôt des rencontres et on propose. Et sur les résidences plutôt courtes, ce sont des calls qui partent, qui sont diffusés à l'échelle internationale.
J'ai pu retrouver Léo Fourdrinier, artiste associé du Port des Créateurs. Et je dis retrouver parce que notre rencontre date de sa résidence en 2018 au Confort Moderne à Poitiers. Je vous laisse faire sa rencontre. Il nous raconte tout sur son travail et sur sa résidence au Port des Créateurs.
Oui, bonjour Agathe. Donc je m'appelle Léo Fourdrinier, je suis artiste. J'ai 30 ans et je suis arrivé à Toulon en 2019 pour faire une résidence de création qui a duré 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois, en fait, j'ai complètement sympathisé avec le lieu, l'équipe. Et le Port des Créateurs m'a proposé d'être artiste associé pour une durée de 3 ans ici. Donc de continuer à travailler avec eux, à la fois pour développer mon travail artistique, mais aussi participer à leur programmation, faire des ateliers, rencontrer le secteur culturel du département, de la région. Enfin voilà, m'implanter en fait à Toulon. Oui, c'est vrai que le Port des Créateurs, comme il s'étend sur différents espaces, en fonction des besoins techniques et matériels, on peut comme ça travailler sur plusieurs champs et plusieurs médiums en même temps, et surtout être aussi au contact de personnes qui sont en dehors des arts visuels et donc apprendre d'eux aussi. Alors, j'ai une pratique qui est principalement celle du volume. En tout cas, je pense mes œuvres quasiment systématiquement en volume, mais c'est un travail qui s'inspire à la fois de l'histoire, des sciences, de la poésie, de la littérature, de la musique, disons, qui prend ses sources dans différents formats. Et à partir de là, je vais réinterpréter les phénomènes scientifiques ou les événements historiques d'un point de vue plus personnel, ce qui aboutit souvent à des sculptures composées de différents assemblages, de matériaux récupérés, de formes que je vais réaliser moi-même, pour donner une espèce de grande mythologie que j'essaie de créer au fur et à mesure de mon avancée dans la vie. Ici, on est dans la galerie L'Axolote. La galerie L'Axolote, c'est une galerie d'art contemporain qui a été ouverte il y a une dizaine d'années par Julien Carbone, le directeur du Port des Créateurs, et Imen Dridi, sa compagne. C'est une galerie d'exposition, une galerie marchande qui présente des artistes internationaux et du coin, mais qu'on est un petit peu en train de reformuler. En tout cas, on reformule le contexte de la galerie, puisque petit à petit, ça devient un atelier de production pour les artistes en résidence et pour les personnes qui ont besoin d'un espace pour produire des œuvres un peu plus ambitieuses au niveau du volume. Donc là, en ce moment, l'espace est libre. On a une exposition qui sera organisée par Yann Perrol, un des commissaires associés de la galerie, mi-novembre. C'est une exposition en partenariat avec le Festival Queer du Théâtre Liberté. Et tant que l'espace est libre, là en tout cas pour ma part, je suis en train de réaliser une nouvelle sculpture en plâtre. Donc je peux un peu me déployer dans l'espace et faire ma soupe.
Imaginer l'ouverture du Port des Créateurs était aussi un moyen de créer un véritable écosystème et de développer de la coopération entre les acteurs de l'industrie culturelle et créative du territoire. Pour ça, ce sont des bureaux partagés qu'on retrouve à l'étage où toutes les discussions et rencontres mènent à des projets de toutes sortes. On a pu faire la rencontre de Béli, directeur de l'association Culture Plus, qui nous parle du Port des Créateurs.
Alors, je suis Béli Guéza, je suis le directeur de l'association Culture Plus. Donc voilà, une association que j'ai fondée en 2006, qui on fait de la production de concerts, en production aussi de festivals, notamment le Festival des Couleurs Urbaines, voilà, qui est installé dans la métropole toulonnaise depuis 2009. Je fais aussi la programmation de ce festival, voilà, plusieurs casquettes. On fait des grandes choses, mais avec des petits moyens. Et voilà, depuis, ça continue, hein, l'association entame sa 17e année. Et le festival, 15e édition pour les Couleurs Urbaines. On avait un autre bureau, par exemple, à l'époque, avant de venir ici. On était dans un bel immeuble, Place de la Liberté, dernier étage, balcon, tout ça. Mais c'était un immeuble un peu où il n'y avait que des professions libérales, médecins, etc. On était assez isolés dans un petit appartement partagé, quoi, avec il y avait une autre structure. On était 3 en tout. Mais voilà, il n'y avait pas trop d'échanges et tout. Ce que je retrouve ici, c'est comme ce matin, il y avait un petit déjeuner du mardi entre structures. Ça permet aussi, même si on commence à connaître tout le monde, mais des fois des projets, voilà, on est au courant, on prolonge une idée, on se donne aussi de la force. C'est pas de l'argent, on va pas, voilà, mais c'est un peu un échange, quoi, hein, qui fait du bien. On l'a vu même pendant le Covid, ça nous a quand même, voilà, c'est servi de ne pas être isolé, quoi. Si on était resté là-bas, là c'était la dépression. Voilà, quoi, il y avait de quoi devenir gaga. Donc ici, on trouve il y a une atmosphère. Il y a des salles aussi qui se prêtent à faire des choses. Comme là, le colloque, on va l'organiser ici. On a organisé les concerts de... Il y a eu souvent les ouvertures ici depuis 3 ans. Celle surtout avant le Covid, où on avait invité Suzanne, qui n'était pas encore connue. C'était un concert gratuit sur la place des Savonnières. On avait été aussi aidé avec le port des créateurs, Julien Carbone. Cette année aussi, on a fait Thaïs Lona. Il y a eu des artistes locaux. Il y a eu un défilé de la boutique Aza, qui est plus une boutique un peu urbaine et tout. Ils nous ont fait un showroom, défilé, etc. On essaye d'ouvrir, voilà, aussi à nos voisins, aux commerçants. Des fois, il y a de l'art culinaire, il y a de la mode. En fait, on ne s'interdit rien, quoi. Il peut y avoir du street art. Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs structures et ça nous apporte. C'est enrichissant. C'est que du bonus, quoi. C'est, comment dire aussi, c'est des loyers qui sont plutôt modérés et on trouve qu'on est dans notre univers, hein. Moi, je connais bien la friche, quoi. Ça ressemble un petit peu. C'est moins gros, quoi. Mais dans l'esprit, ça y ressemble. Je sais que là-bas, il y a des belles choses qui sont nées aussi, qui ont été créées avec ces échanges-là entre les structures, quoi, culturelles.
Et je crois que tout le monde est d'accord. Le port des créateurs n'est autre qu'un lieu de rencontre.
Rencontre parce que c'est vraiment un lieu où se croisent différents publics, donc du grand public, des personnes qui souhaitent travailler dans le monde des industries culturelles et créatives, des personnes qui travaillent déjà, des personnes qui viennent ici un peu par hasard et qui des fois repartent avec des idées ou des inspirations. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où on peut rencontrer pas mal de publics, d'acteurs et rencontrer des projets qui peuvent faire venir des idées et inspirer des carrières et des projets.
Et l'intérêt d'y être, c'est de pouvoir croiser toutes les forces du centre-ville, tous les acteurs qui veulent participer un peu au rayonnement culturel de la ville.
Ouais, voilà, un micro-écosystème, et dans le sens où, au final, on se pointe là, le lieu en lui-même, il nous permet de faire des choses, mais il va pas les faire à notre place, et c'est plutôt, on va dire, la coopération entre les personnes qui habitent ce lieu, les personnes qui le gèrent, et ceux qui viennent s'en servir pour des projets un peu plus ponctuels, qui vont faire au final qui vont créer justement toute l'animation et toute la vie qu'il y a là-dedans, en fait.
Moi, je dis, voilà, je le redis, hein, c'est un écosystème, quoi. C'est un endroit qui était super nécessaire à Toulon, quoi. Voilà. Donc, le tiers-lieu est dans le vrai. J'espère qu'il va continuer un peu à grossir. Nous, on espère aussi qu'on continue ici à être résident, quoi. Et voilà, en plus, ça bouge, hein. Il y a toujours des nouvelles structures, des nouveaux gens, et l'équipe est superbe. Il y a des beaux projets comme le Murex, comme le festival aussi Intramuros, où justement on a fait Suzanne ensemble. Donc il y a des convergences, il y a de l'entraide, il y a... voilà, je pense c'est un lieu qui a du sens et qui doit être pérennisé et qui est encore, je pense, encore méconnu, quoi. Avec Intramuros que défend le port de créateurs, ça contribue aussi, voilà, au rayonnement du lieu et les structures qui l'occupent, quoi. Ça commence quand même à être un lieu phare de la métropole, quoi. Je pense, tête de pont des tiers-lieux dans le Var, on peut le dire sans problème.
Le Port des Créateurs, c'est aussi un lieu de programmation pluridisciplinaire, avec des expositions bien sûr, notamment lors de mon passage en novembre dernier, avec une exposition dans le cadre du Festival des Cultures Hybrides, TLN, qui se déroule chaque année sur l'automne pendant 3 semaines. Qui de mieux placé que Stéphane, directeur du festival, pour nous en dire quelques mots ?
Alors, je suis Stéphane Boudet, je dirige depuis 10 ans le festival TLN, un festival qui accueille des jeunes artistes, donc toujours pour montrer des nouveaux visages, de nouvelles esthétiques, une nouvelle pratique artistique. On est très amoureux des arts graphiques, des arts visuels et du numérique, donc il y a toujours cette teinte qu'on essaie de présenter lors du festival. C'est un travail de 6 mois de veille artistique pour trouver les artistes qui vont composer cette édition. Un peu spécial parce que je voulais vraiment couper avec tout ce qu'on a fait les éditions précédentes. Donc je voulais qu'on travaille beaucoup les questions autour du transhumanisme, également des questions du métaverse, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est la nouvelle identité artistique, je pense. Et donc je suis allé récupérer des projets d'artistes européens, dont Ariette Davé, qui est une berlinoise, qui travaille autour de l'avatar du jeu vidéo. Et je trouvais ça intéressant de la placer avec des grands formats sur les télés en projection pour qu'on puisse vraiment se confronter à son travail. Également, on a d'autres projets comme avec Inès Alpha qu'on présente, elle qui va travailler plutôt le filtre qu'on trouve sur les réseaux sociaux en général. Mais également des artistes sculpteurs, des plasticiens qui viennent enrichir l'exposition. Donc vraiment des questions autour de l'identité, les questions d'environnement, des questions inclusives aussi, tout ce que la nouvelle société va devoir, je pense, bientôt se poser comme question. Et c'est la thématique du festival, et à chaque fois il y aura toujours ces mêmes thématiques. Hein.
Des expositions, mais aussi des workshops quasiment tous les samedis sur des disciplines très différentes et ouvertes à toutes et à tous.
En fait, pendant une journée entière, de 10h à 18h, on est accompagné par un artiste de la région qui va animer un atelier autour d'une pratique artistique ou d'une thématique. Donc on a commencé avec 6 artistes, aujourd'hui on en a 13 sur ces workshops. On en propose quasiment tous les samedis, il y a 45 workshops par an. Ils sont entièrement gratuits, ça va des workshops sur les arts culinaires, sur les arts plastiques, la sculpture, la musique, le travail du son, le travail de l'édition, le travail de la photo, de la vidéo. Ça rencontre un beau succès, la danse aussi. Ça plaît beaucoup et ça nous a vraiment permis de renouer un contact avec le public et d'avoir une programmation de saison.
Et un événement phare chaque année sur l'été intitulé Extramuros.
Extramuros, c'est le temps fort, on va dire, estival, c'est le cœur de notre programmation. Tout au long de l'année, on programme des rencontres, conférences, on programme des ateliers ouverts pour le public. Et l'été, c'est le moment où on peut investir l'espace extérieur. Bon, on est dans une ville où on a certainement le moins de pluie en France, donc on a une météo qui est très favorable. Mais l'été, c'est le moment où il fait bon, il fait chaud. Et là, on fait le choix de faire des projections plein air sur la place, donc qui est devant le bâtiment, des concerts, des battles de danse et d'autres formes comme ça qu'on peut présenter en extérieur. Et c'est aussi l'occasion, donc là on l'a testé maintenant depuis 2 ans, d'avoir une exposition. Sur les formats précédents, c'était 1 mois d'exposition. En 2023, ce sera 2 mois. En fait, on faisait 2 expositions sur l'année, une au printemps et puis une à l'été. Donc en 2023, on l'a resserré sur une exposition de 2 mois en été.
En tout cas, si vous êtes de passage à Toulon, je vous invite à rendre visite au Port des Créateurs et à demander une petite visite pour ne pas louper un seul de ces lieux satellites. Et pour les habitants de la région, n'hésitez pas à regarder la programmation. Je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur et que vous ne serez pas déçus du voyage. En attendant, de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode à la découverte d'un nouveau lieu et d'une nouvelle ville. Merci d'avoir écouté ce 12e épisode de La Halte. Merci au Port des Créateurs pour votre accueil et votre gentillesse. Chers auditeurs, pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant Quartier Libre. Ah, et j'allais oublier, gros big up à nos nouvelles virgules signées Marius et Romain. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
Oh, c'est la halte.
La quoi?
La halte.
Waouh.
Ouais, t'as bien entendu, ouais. La halte.
Yeah.